franceinter.fr.
Et c'est donc l'ouragan Irma à la une de la science aujourd'hui, ce monstre d'une puissance record qui ravage tout sur son passage.
C'est impressionnant. J'imagine même pas ce que ça peut être dehors. On entend des projectiles, des choses voler, mais on voit pas grand-chose, quoi. Et on entend des gens taper, donc c'est peut-être une vitre qui s'est cassée, mais franchement, je peux pas ouvrir, le vent est trop fort.
Voilà le témoignage de Nadia hier sur l'île de Saint-Martin. Aujourd'hui, l'ouragan Irma atteint Porto Rico, demain il sera sur Haïti, la Jamaïque. Il continue sa route vers la Floride pour évidemment continuer la façon dont il dévaste en tout cas tous ces pays sans le moindre signe de fatigue. On en parle aujourd'hui. Axel Villard, je vais y arriver avec le météorologue François Gourand.
Bonjour François Gourand.
Bonjour.
Vous êtes prévisionniste à Météo France. Vous suivez quasiment minute par minute la progression d'Irma. C'est officiel, c'est l'ouragan le plus puissant connu en Atlantique, vous le confirmez ?
Alors oui, c'est-à-dire que si en étant précis, si on prend les régions en fait situées limitées par les petites Antilles sur la partie ouest, sur le bassin atlantique, effectivement, on a connu avec Irma l'ouragan le plus puissant sur cette zone-là. Donc depuis qu'on a les moyens de faire des observations exhaustives, c'est-à-dire depuis l'époque des satellites, dans les années 70.
Comment expliquer sa montée en puissance depuis mardi, au fur et à mesure qu'il arrivait vers les îles ?
En fait, il a rencontré des conditions très favorables à son développement, c'est-à-dire déjà des mers particulièrement chaudes qui apportent donc du carburant à l'ouragan.
C'est quoi la température ?
C'est des températures de l'ordre de 29 degrés, qui approchent les 30 degrés. Alors, c'est des mers qui sont naturellement chaudes, on est sous les tropiques, mais à ce niveau-là, on est quand même 2 degrés à peu près au-dessus des températures normales, donc c'est même pour là-bas, c'est quand même très chaud. Et chaque degré en plus apporte beaucoup d'énergie potentiellement donc pour ces cyclones qui pompent véritablement l'énergie de l'océan. Donc, il y a eu ça, et puis il y a eu globalement, je dirais, un contexte lié à l'absence d'El Niño favorable au développement des cyclones sur le bassin atlantique, puisque ça a introduit en fait une configuration de vent qui permet aux cyclones de se développer plus facilement.
Une fois que vous savez que l'ouragan va atteindre des terres, est-ce que vous changez la manière dont vous l'observez ? Est-ce qu'il y a des caractéristiques que vous suivez plus précisément ?
Il est évident, il y a un suivi de toute façon qu'on fait nous à Météo France, régulier de tous les phénomènes tropicaux qui se produisent sur la zone, notamment l'Atlantique, puisque les Antilles sont au bout du parcours naturel de ces phénomènes. Maintenant, c'est vrai que celui-là, on avait repéré dès le 30 août en fait une trajectoire qui pouvait menacer les Antilles. Donc là, il y avait plusieurs bulletins réactualisés chaque jour en fait de suivi pour affiner justement la trajectoire à l'aide des modèles de prévision numérique qu'on utilise, qui sont quand même de plus en plus performants. Et donc effectivement. Là, il y a un suivi renforcé, encore plus évidemment quand on s'aperçoit qu'in fine, on va être menacé dans nos territoires.
À partir de quand vous avez vraiment pris conscience de l'ampleur de cet ouragan et de sa dangerosité ?
Alors, on peut
l'anticiper, ça ou pas ?
C'est-à-dire, oui, on peut l'anticiper parce que déjà, on l'a vu se renforcer nettement bien avant qu'il touche terre en fait sur les Antilles. Et on a bien vu, hélas, que ce que nous montraient notamment les modèles de prévision, qu'il allait continuer à avoir cette intensité très importante, très puissante, jusqu'à son arrivée vers les Antilles. Donc, à partir de ce moment-là, je dirais, la vigilance était maximale.
On l'a souvent dit à cette antenne, les simulations des climatologues prévoient des cyclones et des ouragans plus puissants à cause du réchauffement climatique. Est-ce qu'Irma fait partie de ces monstres redoutés, j'ai envie de dire ?
Si vous voulez, on peut pas. Quand on essaie d'apprécier en fait l'évolution climatique sur les cyclones, on est pénalisé par le fait qu'on a finalement une ancienneté des données assez limitée parce qu'il faut avoir une vision un peu exhaustive pour pouvoir juger du caractère de la tendance en fait qui se dégage sur ces phénomènes. Or, il n'y a que depuis l'ère des satellites, disons à peu près les années 70, qu'on arrive à avoir vraiment cette vision exhaustive qui nous permet vraiment de aussi bien de quantifier et de comptabiliser les différentes intensités des cyclones. Donc après, on fait tourner nos simulations, et ce qu'on voit dans nos simulations, c'est que effectivement, elles indiquent que il y aura des cyclones puissants, les cyclones les plus puissants seraient encore plus puissants.
Oui, mais pas plus nombreux,
mais
forcément.
Mais pas forcément plus nombreux, peut-être même moins nombreux. C'est-à-dire qu'il y a des simulations climatiques qui indiquent plutôt qu'il y en aura autant, voire un peu moins en nombre.
Ouais.
Parce que voilà, la température de la mer ne fait pas tout. Et qu'au contraire, mais par contre, ceux qui se produiraient, la force des vents pourrait augmenter un peu.
Jusqu'à combien on peut imaginer des vents sur notre globe ?
J'ai pas de... on va dire qu'il y a sûrement une borne physique, hein, je la connais pas, mais bon, on peut imaginer, là, on a, par exemple, on a approché les 300 km/h pour les vents les plus forts, bon, je crois qu'on peut, on anticipe peut-être une augmentation de l'ordre 10% de la force des vents, mm-hmm. Donc bon, ça fait quelques dizaines de kilomètres, bon, qui à chaque fois, en dégâts, c'est pas proportionnel, hein, ça fait des dégâts d'autant plus importants, hein, des forces très importantes, et il y a aussi un caractère pluvieux, hein, plus pluvieux des cyclones, hein, qui semblent se dégager également des recherches.
Ça fait 40 ans qu'on observe les cyclones, ouais, avec les satellites. Ouais. Combien d'années d'observation encore il faudra pour confirmer ou peut-être infirmer cette prédiction des simulations ?
Je veux dire, alors je ne travaille pas personnellement, hein, sur ce sujet, donc je connais pas, si vous voulez, je peux pas vous dire où on en est en termes de performance, en fait, comment les observations collent vraiment à nos prévisions. Mais ce qui, en général, en météorologie, en climatologie, on apprécie sur des périodes d'environ 30 ans à peu près les phénomènes. Donc là, on a en gros une trentaine d'années à peu près exhaustive. On arrive dans la quatrième décennie, disons, d'observation. J'imagine que dans les 2-3 prochaines décennies, on aura quand même une idée beaucoup plus claire, un peu de tout ça. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'un phénomène comme celui qu'on a observé là, encore une fois, ce que les modèles aujourd'hui de simulation climatique à fine échelle, hein, qui permettent de représenter les cyclones, arrivent à représenter, c'est des phénomènes plus puissants de ce type-là. Donc ça colle assez bien avec le schéma.
Là, avec Irma, on est face à l'ouragan le plus puissant jamais observé sur l'Atlantique ou pas ?
Alors, sur l'océan Atlantique jusqu'aux petites Antilles, oui. Après, sur Atlantique-Caraïbes, sur toute la zone, non. Mm-hmm. Même si c'est parmi les plus puissants, c'est pas le plus puissant.
Et ce trio d'ouragans ?
Alors, les trois ouragans, là, oui, effectivement, il y a également José et Katia actuellement, qui sont moins puissants tous les deux, mais enfin, il y a trois ouragans simultanément sur le bassin, disons, Atlantique-Caraïbes. Donc ça s'était produit pour la dernière fois il y a 7 ans. Donc ça arrive de temps en temps, pas très souvent, hein, de toute évidence, ça fait 7 ans, mais en soi, bon, c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus.
Alors, Irma va continuer sa route, oui, sur les terres. Est-ce qu'on prévoit une baisse de sa puissance dans les prochains jours ?
Alors malheureusement, sur les simulations qui sont actuellement faites, le cœur de l'ouragan, hein, l'œil et donc toute la puissance qui est concentrée ici près du centre, a l'air de garder une trajectoire maritime, en fait, donc qui va sur des eaux très chaudes et avec des facteurs atmosphériques de configuration de vent qui devraient malheureusement pas l'affaiblir beaucoup. Là, on regardait peut-être que le passage près de la République dominicaine avec du relief, ça peut casser un petit peu la structure des vents du cyclone dans une partie, ça peut temporairement l'affaiblir, mais comme il va ensuite continuer à naviguer sur des eaux très chaudes, il n'y a pas d'affaiblissement vraiment important qui est attendu dans les 2-3 prochains jours avant que ça arrive peut-être vers la Floride ce week-end.
Donc Hawaï, la Jamaïque, la Floride doit se préparer à la même chose que Saint-Barth et Saint-Martin ?
Alors aujourd'hui, comment dire, la trajectoire n'est pas aussi précise pour dire avec certitude ce sera tel endroit en Floride et tout, parce que ça donne pas, évidemment, si on décale de 200 km en termes d'impact, ça ne donne pas les mêmes choses. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que c'est déjà regardé de très près par nos collègues américains et effectivement, il y a déjà des préparatifs. Ouais.
Au-delà de l'objet évidemment dévastateur et dramatique, c'est aussi un objet pour la science, un tel ouragan.
Oui,
il y a des choses à apprendre toujours.
Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez que il y a des avions militaires qui font des expériences qui rentrent
dans l'œil du cyclone. On est allé dans l'œil d'Irma
plusieurs fois et même, je crois, presque quotidiennement, et peut-être même plusieurs fois par jour. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, oui, régulièrement, on va dedans parce que malgré tout, sinon, ça reste des objets modélisés, hein, donc assez théoriques. On a besoin aussi de données validées. Il y a des mesures de vent qui sont effectuées par ces avions qui viennent un peu confirmer l'intensité des phénomènes, qui permettent ensuite nous permettent à nous d'affiner un peu notre qualification du phénomène, puisqu'il n'y a pas vraiment d'instruments de mesure au sol, je dirais, qui peuvent résister vraiment à ce genre de phénomène.
Quelle taille faisait l'œil d'Irma ?
Alors, l'œil fait environ 50 km, hein, c'est parmi les yeux importants, hein, pour un cyclone. Donc ça témoigne bien aussi de l'ampleur du phénomène. Hein.
Avec de très belles images malgré tout, hein, parce qu'il est exceptionnel aussi dans sa beauté malgré évidemment le danger.
Un œil aussi bien formé pendant plusieurs jours, c'est quand même assez rare.
Les images de la NASA en particulier sont absolument incroyables. Ouais. On en a posté sur Twitter si vous souhaitez aller les voir. Merci beaucoup en tout cas François Gourand pour vos explications et puis beaucoup de commentaires encore hélas dans les jours qui viennent autour de ces différents ouragans. Merci et Axel, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 83% des eaux potables de la planète qui contiennent des microplastiques, c'est ce qu'annonce l'agence internationale d'investigation Orb Media après avoir fait analyser plus de 150 échantillons d'eau potable en provenance de tous les continents. Les États-Unis arrivent en tête du classement avec 94% des échantillons contaminés. L'Europe fait figure de plutôt bon élève avec 72% de taux de contamination, sans que les scientifiques d'ailleurs puissent expliquer précisément comment ces polluants arrivent jusqu'aux réserves d'eau. Ils se disent très inquiets quant à l'avenir car ils ne connaissent pas du tout encore l'impact de ces nanodéchets sur notre santé. Face à l'accident vasculaire cérébral, hommes et femmes ne sont pas à égalité. L'AVC est la première cause de mortalité féminine dans le monde et certains facteurs de risque comme la fibrillation auriculaire ou l'hypertension sont plus fréquents chez les femmes. L'effet du diabète sucré aussi est plus important. Cette conclusion présentée ici partiellement nous vient d'une étude française très complète publiée hier dans la revue Nature et qui vient, selon ses auteurs, rectifier le tir de plusieurs autres études cliniques où la population féminine était souvent sous-représentée. Plus d'informations sur cette étude INSERM à lire sur la page Facebook de l'émission. Et puis une substance bactérienne qui transforme des organismes unicellulaires eucaryotes en véritables bêtes de sexe. Les chercheurs de l'Université de Californie n'en reviennent pas eux-mêmes de leur découverte. Et ils n'imaginaient pas qu'en ajoutant la bactérie marine Fibrio fischeri à leur élevage de micro-algues unicellulaires, ils déclencheraient une véritable frénésie sexuelle chez celles-ci. La bactérie réussit en effet l'exploit de transformer ces algues asexuées en organismes sexués se reproduisant à plusieurs. Les chercheurs affirment que c'est la première fois qu'une bactérie démontre la capacité de modifier le comportement sexuel d'une autre espèce. Ils cherchent maintenant à expliquer pourquoi.